Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Ces deux phrases qui concluent les mots et les choses en 1966 sont étroitement associées à la première période de l'œuvre de Michel Foucault, celle précisément de l'archéologie. Elles annoncent ce qu'on a très vite appelé la mort de l'homme et qui a tant fait réagir dans les milieux intellectuels. Elles semblent aussi sonner le glas de l'humanisme, car sans l'homme, il semble qu'il ne puisse plus y avoir d'humanisme. L'invention de l'homme avait été le fruit d'un arrangement particulier de ce que l'auteur appelle les dispositions du savoir, dispositions fondamentales du savoir, qui ne sont toutefois pas immuables. Et je le cite, « Si ces dispositions du savoir venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant ni la forme ni la promesse, elles basculaient, comme le fit au tournant du XVIIe siècle, le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer, un visage de sable. » Somptueuse image qui clôt le livre et dont David Massey, biographe de Michel Foucault, écrit qu'elle reste dans l'esprit de la plupart des lecteurs et colore inévitablement tous les débats sur le livre. L'éclat de la formule et le lyrisme de ce final participent du succès d'un livre pourtant jugé ardu par son auteur lui-même. Les comptes rendus se multiplient dans les quotidiens et les magazines. 15 000 exemplaires sont vendus au cours de l'été au fil de 3 rééditions. Commentaire ironique de Michel Le Certeau. Un mois après sa parution, les mots et les choses étaient épuisés, ou dans la mythologie de la publicité, devaient l'être. L'ouvrage long et difficile compte avec des livres d'art parmi ces signes extérieurs de culture qu'un regard avisé doit pouvoir saisir à la devanture d'une bibliothèque privée. Avez-vous lu ça ? De la réponse dépend un statut social et intellectuel. L'effet de mode est indéniable. Il est favorisé par l'ère du temps intellectuel, car le structuralisme de Claude Lévi-Strauss et de Jacques Lacan, auquel Michel Foucault rend hommage dans un entretien, a en quelque sorte préparé le terrain en déclarant la mort du sujet. Il est aussi porté par les recensions élogieuses de philosophes renommés, dont Gilles Deleuze, François Châtelet, Jean Lacroix, à une époque où les livres sont encore discutés dans la presse par des grands noms, tradition dont on sait qu'elle a été aujourd'hui principalement remplacée en France par l'entretien avec l'auteur, exercice moins exigeant, du moins pour les rédactions. Mais des critiques se sont manifestées également. Dans les rangs des intellectuels communistes, notamment de Jeannette Colombel, pour laquelle la réduction du monde à un spectacle et un jeu contribue au maintien de l'ordre établi, à Jacques Millot, qui lui reproche son préjugé anti-historique, le conduisant à masquer les voies objectives de l'avenir. Mais c'est surtout de Jean-Paul Sartre que viennent les attaques les plus vives. Lui aussi voit dans le livre ce qu'il appelle un refus de l'histoire, la succession des trois époques, dont je dirai un mot dans un instant, Renaissance, Âge classique, XIXe siècle, se faisant par une succession d'immobilité, écrit Jean-Paul Sartre, animée par une lanterne magique. Effacement de l'histoire, derrière lequel, ajoute-t-il, bien entendu, c'est le marxisme qui est visé, cette idéologie nouvelle proposée étant le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre lui. C'est ce qui explique l'accueil favorable qui lui est réservé, observe encore Jean-Paul Sartre. Je le cite, « Le succès de son livre prouve assez qu'on l'attendait, or une pensée vraiment originale n'est jamais attendue. » Cette critique ne surprend toutefois pas, car il est clair que l'entreprise intellectuelle de Michel Foucault, dans les mots et les choses, et même avant d'ailleurs, vise aussi à déloger de son piédestal l'auteur de la critique de la raison dialectique, ouvrage qu'il qualifie dans un entretien de magnifique et pathétique effort d'un homme du XIXe siècle pour penser le XXe siècle. Le philosophe qui écrivait que l'existentialisme est un humanisme ne pouvait certes pas trouver grâce auprès de celui qui apparaissait à l'époque comme le liquidateur de l'homme. Mais la mort de l'homme et la fin de l'humanisme sont-ils effectivement le projet de Michel Foucault ? Rien n'est moins sûr. Venant au secours de son ancien élève, Georges Canguilhem, encore une fois, s'étonne, je le cite, des réprobations moralisatrices, des colères et de l'indignation soulevées de plusieurs côtés par l'ouvrage, s'interrogeant même, dans un siècle où la religion et la législation ont depuis longtemps cessé d'opposer à la critique l'une sa sainteté, l'autre sa majesté, c'est au nom de la philosophie que l'on proscrirait la mise en question du fondement de ce que certaines philosophies croient trouver dans l'essence ou bien dans l'existence de l'homme. Dès lors, se demande-t-il encore, va-t-on voir se constituer une ligue des droits de l'homme à être le sujet et l'objet de la philosophie, sous la devise humaniste de tous les pays, unissez-vous. S'agit-il donc de sauver l'homme, et l'on remarquera au passage que c'est toujours au masculin, réputé universel, qu'est donné ce nom, signe d'un autre temps, peut-être pas complètement révolu dans l'anthropologie française notamment, dont la principale revue s'appelle toujours L'Homme, quand l'anthropologie britannique a débaptisé la sienne qui avait pour nom Man, il y a plus de 30 ans. Il importe donc certainement maintenant de rappeler quelques éléments du propos du livre. Dans chaque culture, il y a d'un côté des codes fondamentaux en termes de langage, de valeurs, de pratiques, qui permettent à chacun de se repérer, et de l'autre, des éléments savants, théories scientifiques ou interprétations de philosophes qui offrent une compréhension des principes régissant l'ordre des choses. Et entre les deux, existe une région médiane qui correspond aux conditions de possibilité du passage d'un niveau à l'autre, donc de la formation de rationalité et de la constitution de savoir. Cette épistémé caractérise un temps historique. Et son étude doit pouvoir échapper, selon Michel Foucault, à toute tentative d'une part de décrire les idées en tant que telles, en conséquence il n'y aura pas de discussion des contenus, et d'autre part de parler de progrès de la pensée, autrement dit, il n'y aura pas non plus de téléologie, d'avancer vers un but précis et défini. Trois moments se dessinent dans l'histoire de la culture occidentale. La Renaissance est en quête des similitudes entre les objets présents dans le monde et doit relever le défi de la cohabitation entre la magie et l'érudition. Puis vient l'âge classique, qui se constitue autour de la notion d'ordre, qui illustre les trois discours savants de la grammaire générale, de l'histoire naturelle et de l'analyse des richesses, soit les trois fonctions consistant à parler, à classer et à échanger, qui se mettent en œuvre sous l'empire de l'algèbre et de la taxonomie. Enfin émergent au XIXe siècle, ce qu'on peut appeler les temps modernes, si on veut, qui s'organisent aussi autour d'un triptyque parallèle au précédent avec la philologie, la biologie et l'économie, autrement dit, les sciences du langage, de la vie et du travail. Et c'est là qu'entre en scène l'homme, ou plutôt la figure de l'homme, selon Michel Foucault, en tant que sujet connaissant et objet de connaissance. Son positionnement à travers les sens qui vont être précisément dites humaines s'avère toutefois délicat, car l'espace des savoirs est en quelque sorte déjà constitué dans trois dimensions, les sciences mathématiques et physiques, les disciplines empiriques du langage, de la vie et du travail, et la pensée philosophique. La psychologie, la sociologie, la littérature en tant que sciences humaines, mais aussi l'histoire et l'ethnologie, qui ont plus de mal encore à trouver leur place, sont confrontées à ce qu'il appelle une irréductible précarité du point de vue de leur localisation dans le domaine épistémologique, qui les fait apparaître comme à la fois périlleuses et en péril. Elles souffrent en effet de leur incertitude comme science, leur dangereuse familiarité avec la philosophie, leur appui mal défini sur d'autres domaines du savoir, leur caractère toujours second et dérivé. Et pourtant, ajoute-t-il, elles prétendent conserver leur prétention à l'universel. N'est-on pas cependant à la fin d'un cycle se demande-t-il, tout en reconnaissant que ce sentiment de finitude n'est pas nouveau. Et je le cite, que Hölderlin, que Hegel, que Feuerbach et Marx avaient tous déjà cette certitude qu'en eux, une pensée et peut-être une culture s'achevaient et que, du fond d'une distance qui n'était peut-être pas invincible, une autre s'approchait. Ici se profile à l'évidence l'ombre de Nietzsche, qui a montré, dit Michel Foucault, que la mort de Dieu est le dernier homme en partie lié, car n'est-ce pas le dernier homme qui annonce qu'il a tué Dieu ? Dès lors, plus que la mort de Dieu, il faudrait imaginer que ce qu'annonce la pensée de Nietzsche, note encore Michel Foucault, c'est la fin de son meurtrier. L'homme en tant qu'objet et sujet de connaissance, intimement lié dans l'espace du savoir, pourrait alors disparaître comme il est apparu. Dans les modes de prise de parole auxquels Michel Foucault s'intéressera plus tard, il distinguera le sage, le rhéteur, le pédagogue, le parésiaste, comme on l'a vu. Ici, il se donne le rôle qu'on n'attendait pas forcément de lui, du prophète. Et sa prophétie prédit la mort de l'homme. Faut-il en déduire la fin de l'humanisme ? S'agit-il d'un anti-humanisme, comme beaucoup le disent ? S'en suivra-t-il un post-humanisme, comme il semblerait logique ? Telles sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Mais d'abord, il faut s'interroger, se demander, qu'est-ce que l'humanisme ? Définir l'humanisme n'est certainement pas chose aisée. Dans un texte bien plus tardif, puisqu'il s'agit de « What is Enlightenment ?» Qu'est-ce que les Lumières, qui est paru en anglais la dernière année de sa vie, Michel Foucault le reconnaissait lui-même. Je le cite, « C'est un thème, ou plutôt un ensemble de thèmes, qui ont réapparu à plusieurs reprises à travers le temps dans les sociétés européennes. Ces thèmes, toujours liés à des jugements de valeur, ont évidemment beaucoup varié dans leur contenu, ainsi que dans les valeurs qu'ils ont retenues. De plus, ils ont servi de principes critiques de différenciation. » Il en donne alors une série d'exemples. Au XVIIe siècle, il y a eu un humanisme qui se présentait comme critique du christianisme ou de la religion en général. Puis il y a eu un humanisme chrétien en opposition à un humanisme ascétique et beaucoup plus théocentrique. Au XIXe siècle, il y a eu un humanisme méfiant, hostile et critique à l'égard de la science et un autre qui plaçait son espoir dans ces mêmes sciences. Au XXe siècle, des philosophies se sont revendiquées de l'humanisme, notamment le marxisme, l'existentialisme, le personnalisme, et même des idéologies totalitaires, le nazisme et le stalinisme, se sont prétendues humanistes. Alors, que disent les dictionnaires ? Le dictionnaire de l'Académie française, dans sa deuxième édition de 1718, inclut « humaniste » pour, je cite, « celui qui sait bien ses humanités ou celui qui les enseigne », s'agissant en l'occurrence de ce qu'on apprend dans les écoles, jusque à la philosophie exclusivement. Mais le mot « humanisme », lui, n'apparaît que dans la huitième édition en 1935, avec pour signification, cette fois, « culture d'esprit et d'âme qui résulte de la familiarité avec les lectures classiques, notamment la grecque et la latine », et « mouvement du retour aux études grecques et latines qui se produisit dans l'Europe occidentale au XVe et XVIe siècle. » C'est donc un sens particulier jusque à cette époque. Le dictionnaire de Trévoux, du nom du village où fut réalisée sa première édition, dans sa version en 6 volumes de 1740, ne connaît pas humanisme non plus, mais donne pour humaniste la définition suivante, qui s'applique aux lettres humaines, aux humanités, et ces dernières correspondant à la grammaire, la rhétorique, la poésie, etc. Avec, pour exemple, un écolier humaniste comme expression. Quant au trésor de la langue francoise de Jean Nicot de 1606, donc antérieur aux deux précédents, il ne propose aucune des deux entrées, ni humaniste, ni humanisme. Donc le mot humanisme est récent, et du reste initialement différent de ce que le sens commun en retient aujourd'hui. Le dictionnaire historique de la langue française qu'a dirigé Alain Rey indique que le substantif est attesté isolément en 1765 au sens de philanthropie, puisque vers 1840, probablement sous l'influence de l'allemand humanismus, Il désigne la doctrine qui prend pour fin la personne humaine. Et enfin, il se spécifie à partir de 1877 pour parler du mouvement représenté par les humanistes de la Renaissance. On le voit, apparition tardive du vocable et grande polysémie. C'est ce que relève aussi le vocabulaire technique et critique de la philosophie d'André Lalande, dont la première édition date de 1926. Pour l'ancienneté, l'auteur note, je cite, que ce mot ne figure ni dans le Littré, ni dans le dictionnaire de l'Académie française, 7e édition. Quant à la signification d'humanisme, il conclut « Il est inutile d'insister sur l'ambiguïté de ce terme, même réduit à ses sens principaux. » En effet, il peut se référer premièrement au mouvement donc, des humanistes de la Renaissance qui se caractérise par une mise en valeur de la culture antique. Deuxièmement, à la doctrine selon laquelle toute connaissance est subordonnée à la nature humaine. Troisièmement, à une conception selon laquelle le salut de l'homme ne peut être assuré que par les forces humaines à l'exclusion donc de toute intervention divine. Quatrièmement, à une théorie qui s'attache à l'opposition dans l'homme entre sa nature humaine et sa nature animale. Tout cela toujours chez André Lalande. Encore l'auteur ajoute-t-il dans ses fameuses notes de bas de page d'autres variantes que je ne citerai pas. Peut-être est-ce du reste cette confusion qui a conduit à ce que ce mot n'ait pas d'entrée dans les plus de 2000 pages du dictionnaire d'éthique et de philosophie morale dirigé par Monique Cantos-Ferber, dont l'intitulé semblait pourtant l'appeler, qui n'apparaissent pas parmi les près de 1800 concepts étudiés dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui est une référence majeure de la discipline, et qui ne figure pas même dans les 23 pages de l'index de l'Oxford Handbook of Contemporary Philosophy consacré, il est vrai, à la philosophie analytique. Pourtant, il faut bien tenter d'appréhender ce dont il est question lorsqu'on utilise ce terme courant, au fond, que chacun pense à peu près comprendre, mais qui échappe à l'entendement dès lors qu'on consulte les définitions. En somme, de quoi parle-t-on ? Une manière de répondre à cette question est de s'intéresser au vocable duquel humanisme est tiré, à savoir humain. Il vient du latin humanus, signifiant ce qui est propre à l'homme. Mais au-delà de cette définition presque tautologique, comment interpréter la formule « être propre à l'homme » ? Un détour historique peut y aider. S'il est un auteur qu'on associerait volontiers à l'humanisme, bien qu'il vécut longtemps avant que ce mot même n'apparaisse dans les dictionnaires, c'est Michel de Montaigne. Il est d'ailleurs connu pour avoir fait graver sur une poutre du plafond de sa bibliothèque, dans laquelle il écrivait ses essais, la formule « Homo sum, humani nihil ami, alienum puto, je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». La phrase est célèbre, ayant même été donnée, peut-être avec une petite note d'humour, par Marx comme étant sa maxime favorite. Le latiniste australien Henry David Joslin souligne là encore la difficulté d'en donner le sens de manière univoque. S'agit-il de reconnaître une faiblesse émotionnelle et spirituelle, une expression de la charité chrétienne, un désaveu de l'intolérance, une apologie de l'éducation ? S'interroge-t-il. En réalité, loin de la noblesse d'intention qu'on lui prête, la phrase provient d'une comédie de Terence, Leotontimorumenos, et devait faire rire le public plutôt que l'édifier. Je parle d'une pièce dont la première représentation est de 163 avant notre ère. Au début de la pièce, un personnage, voyant son voisin s'échiner du matin au soir, l'invite obligeamment à ne pas tant travailler. L'autre se fâche et lui rétorque qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires. Mais l'homme bienveillant répond qu'il est homme et que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Ajoutant que si son voisin lui paraissait bien, il l'imiterait, mais que si cela lui semblait mal, il tenterait de l'en dissuader. L'élévation de la formule est donc quelque peu dissonante avec la trivialité de la conversation. Du reste, lorsque Montaigne la cite au livre 2 des Essais, c'est avec une note d'humour, dans un chapitre sur les méfaits de l'ivrognerie. En somme, ni chez Terence, ni chez Montaigne, la phrase plutôt anodine, dans les contextes d'une dispute, dans un cas, et d'une intempérance dans l'autre, n'avait la connotation universaliste, on serait tenté de dire humaniste, qu'elle a prise depuis. Or, c'est bien cette connotation qui gêne Michel Foucault. Je le cite, « On croit que l'humanisme est une notion très ancienne qui remonte à Montaigne et bien au-delà. En fait, avec cette tentation de l'illusion rétrospective à laquelle on ne succombe que trop souvent, on s'imagine volontiers que l'humanisme a été la grande constante de la culture occidentale. » Et on s'émeut d'ailleurs quand on reconnaît les traces de cet humanisme ailleurs, chez un auteur chinois ou arabe, et on a l'impression alors de communiquer avec l'universalité du genre humain. Or, non seulement l'humanisme n'existe pas dans les autres cultures, mais il est probablement dans la nôtre, de l'ordre du mirage. Tel est bien le problème de l'humanisme. Il n'est pas seulement un anthropocentrisme par lequel l'être humain est placé au centre du monde, il est aussi un occidentalocentrisme qui s'aveugle lui-même et abuse les autres en prétendant qu'il est un universalisme. La critique de l'arrogance de l'anthropocentrisme donnera le post-humanisme. La critique de la supercherie de l'occidentalocentrisme donnera l'anti-humanisme. De l'une comme de l'autre, Michel Foucault apparaît comme l'une des sources d'inspiration. Mais avant de les exprimer, je ferai deux observations, l'une stylistique et l'autre analytique. Premièrement, dans Les mots et les choses, Michel Foucault développe un discours savant et dépassionné. Ne faudrait-il pas renoncer à penser l'homme, écrit-il, ainsi, pour être plus rigoureux, penser au plus près cette disparition de l'homme et le sol de possibilité de toutes les sciences de l'homme. Mais les entretiens qui sont menés en parallèle de la publication révèlent un ton différent, mordant et quérulent. Je le cite. L'héritage le plus pesant qui nous vient du XIXe siècle et dont il est grand temps de nous débarrasser, c'est l'humanisme. Car ce qui me fâche contre l'humanisme, c'est qu'il est désormais ce paravent derrière lequel se réfugie la pensée la plus réactionnaire, où se forment des alliances monstrueuses et impensables, Sartre et Teilhard, par exemple. Deux styles donc, celui du philosophe et celui du polémiste, qui correspondent à deux registres, celui du monde académique et celui de l'espace public. Il est certes normal qu'on ne s'exprime pas de la même façon dans un livre et dans une interview, pour des collègues ou face à un journaliste. Cependant, la mise en parallèle des deux conduit à se demander si la thèse de la mort de l'homme n'est pas aussi une manière de régler un compte avec l'humanisme et certains de ses représentants. Deuxièmement, Michel Foucault affirme à juste titre qu'il existe de multiples formes d'humanisme, ou plus exactement, diverses réalités ou théories auxquelles on a donné cette qualification. Mais en même temps, il en choisit une et une seule pour en faire la cible unique de son attaque, comme si elle était sa meilleure ennemie, ce qu'elle est probablement. L'intérêt pourtant serait de ne pas renoncer à rendre compte de cette diversité, car les critiques qu'on peut adresser à chacune de ces formes et qui leur ont été effectivement adressées sont très différentes. C'est ce que je veux essayer de montrer en distinguant trois formes d'humanisme. Lors d'un symposium à Washington, il y a quelques années, j'avais été sollicité pour participer à une intéressante initiative conduite par des anthropologues autour de mots-clés, et celui choisi pour l'occasion était « humanisme ». Tout en acceptant, j'indiquais dans une note jointe à l'article qui me fut demandé, je cite, « L'humanisme est un mot et un concept qui me sont étrangers. Je n'utilise pas ce mot, ou du moins je ne le propose jamais comme définissant mon propre point de vue, et si je m'y réfère à l'occasion, c'est pour caractériser une autre pensée que la mienne. Et de plus, je considère que des expressions comme « what it means to be human », ce que signifie être humain, si souvent rencontrées dans les écrits anthropologiques, devraient être proscrites de notre discipline en raison de leur banalité grandiloquente. Probablement y avait-il dans cette méfiance, à l'endroit d'un terme et d'une formule qui me semblait mêler présomption et platitude, quelque chose d'une réminiscence foucauldienne, inconsciente probablement, mais l'exercice me permit de clarifier au moins pour moi-même cette notion polysémique. Le vocable humanisme, on l'a vu, n'apparaît qu'au milieu du XIXe siècle, puis au fil du temps s'enrichit de significations diverses qui font référence au passé et par conséquent désignent des réalités qui n'étaient pas connues comme humanisme dans les différentes périodes. Alors c'est ça qu'il nous faut examiner maintenant. Un premier humanisme voit le jour au cours de la Renaissance, même très tôt d'ailleurs, mais le mot qui le nomme n'apparaît que cinq siècles plus tard, en 1808, à partir du terme allemand déjà mentionné, humanismus, par lequel l'éducateur protestant Friedrich Immanuel Niethammer revendique un enseignement classique de grec et de latin contre les réformateurs qui promeuvent un curriculum moderne fondé sur l'utilitarisme. Le terme est ultérieurement utilisé pour se référer au mouvement qui se développe en Italie, au Trecento, et donc, c'est-à-dire le XIVe siècle, avec l'enseignement des Studia Humanitatis, expression héritée de Cicéron, les humanités ainsi désignées étant les disciplines tenues pour fondamentales, à savoir la rhétorique, la grammaire, la poésie, l'histoire, la philosophie morale, plutôt donc que les mathématiques, la médecine, le droit, la théologie. Si humanismo n'existe pas en italien à cette époque, les maîtres qui enseignent les humanités sont toutefois appelés déjà humanisti. En somme, si l'humaniste est sous ce nom un homme de la Renaissance, l'humanisme naissant, lui, correspond au contraire à une appellation très tardive. Alors comment le caractériser ? Selon le célèbre historien allemand Paul Oskar Christeller, c'est avant tout un mouvement savant et littéraire qui plaide pour l'étude et l'imitation de l'Antiquité classique et qui affecte plus ou moins profondément tous les domaines de cette période. Et il s'appuie pour ce faire sur une redécouverte des textes grecs et latins originaux comme matière à penser. Il ne rompt pas avec la pensée médiévale véritablement, mais il la prolonge et l'étend. Si les humanistes de la Renaissance critiquent la scolastique médiévale, c'est qu'elle leur apparaît trop abstraite, déconnectée de la réalité, sans intérêt pour mener une vie bonne. À la logique, ils préfèrent donc la rhétorique, à la métaphysique l'éthique, à l'épistémologie l'éducation. Plutôt qu'Aristote, ils lisent Platon. Leur art est l'éloquence, leur quête est celle du bien, de la vérité et de la vertu. C'est cette culture née avec Dante, Pétrarque, Boccace, qui formera aussi les grands esprits du temps hors d'Italie, Erasme, Thomas More et Michel de Montaigne. On tend cependant à négliger ce que l'humanisme de la Renaissance doit à l'islam classique. Ainsi que le rappelle le spécialiste états-unien d'histoire arabe, George McDissey, ce n'est pas seulement la scolastique médiévale qui a été profondément influencée par la pensée musulmane, comme on le sait, et notamment par le philosophe et juriste médecin du XIIe siècle Ibn Rushd, qui est connu en Europe sous le nom d'Averroès, traducteur et exégète d'Aristote. C'est aussi la culture humaniste renaissante qui a bénéficié des apports des savants du monde arabe et de leurs méthodes par le retour à l'Antiquité, avec par exemple le philosophe du Xe siècle Al-Farabi, commentateur de Platon. Après 300 ans de renouveau intellectuel européen, l'humanisme renaissant connaîtra en fait un rapide déclin au XVIIe siècle avec l'avènement du cartésianisme. Étonnamment, Michel Foucault, qui consacre dans Les mots et les choses une longue enquête à l'épistémé de la Renaissance, comme on l'a vu, à la structure de ses savoirs, ne nomme jamais l'humanisme, ne le mentionnant en fait qu'à la fin du livre, pour souligner dans une formule quelque peu hâtive que l'humanisme de la Renaissance a pu donner une place privilégiée aux humains, mais qu'il n'a pas pu penser l'homme. Tel n'était assurément pas son objet à l'humanisme. Il ne s'agissait pas de penser l'humain, mais d'enseigner les humanités. Un deuxième humanisme peut être identifié avec les Lumières. Là encore, la position du mot sur la réalité s'est faite rétrospectivement, en référence à la place accordée à l'humanité et à l'homme parmi les penseurs du XVIIIe siècle, comme en témoignent des ouvrages tels que l'essai philosophique sur l'entendement humain du philosophe anglais John Locke, les idées pour une philosophie de l'histoire de l'humanité du pasteur prussien Johann Gottfried Herder et de l'homme de l'auteur français Claude-Adrien Helvétius, parmi bien d'autres. Certes, les différences sont grandes entre les principaux centres de son déploiement que sont la France, avec Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, l'Écosse avec Francis Hutcheson, Adam Smith, David Hume, et l'Allemagne avec Mendelssohn, Lessing et Kant. Et du reste, également au sein de chacun d'eux. Ce mouvement intellectuel ne présente pas l'homogénéité qu'on a souvent voulu lui donner a posteriori en parlant des Lumières, soit pour le défendre, soit pour l'attaquer. Et Antoine Lilti, affirme, je le cite, que les Lumières ne sont ni une doctrine philosophique, ni un ensemble cohérent d'idées et de valeurs, ni même un programme réformateur, mais un mouvement intellectuel polyphonique et profondément réflexif, dont les tensions et les failles sont autant d'enjeux qui accompagnent l'entrée dans le monde moderne. Cependant, il est possible de repérer un ensemble de traits communs qui s'associent de manière variable autour d'une certaine idée de l'homme et de l'humanité. Premièrement, hérité de Descartes, autant que de Spinoza, le rationalisme s'impose comme l'exercice des facultés intellectuelles humaines. Il n'est plus besoin de recourir à la métaphysique et à une causalité divine pour expliquer les phénomènes de la vie. L'homme est capable, par son raisonnement, de rendre compte du monde des idées aussi bien que du monde de la nature, comme l'a fait, bien sûr, Newton. Deuxièmement, influencé par Pierre Bayle, dont le dictionnaire met en cause les dogmes tant religieux que scientifiques, le scepticisme devient une manière de penser. Il ne faut se fier ni aux autorités qui prétendent détenir le vrai, ni aux sens qui peuvent se révéler trompeurs. La connaissance humaine exige donc une épistémologie sans concession. Troisièmement, la remise en question de l'ordre social et politique débouche sur des propositions qui nourrissent aussi bien les révolutions états-uniennes et françaises que l'idéologie libérale. Les êtres humains ont des droits inaliénables, l'égalité et la liberté doivent leur être garanties, l'équilibre des pouvoirs doit être assuré dans le gouvernement. Le XVIIIe siècle est avant tout le siècle de la critique, au sens non pas de désapprouver, mais de discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, le vraisemblable du douteux. La célèbre réponse de Kant à la question « Was ist Aufklärung ?» illustre ces différentes composantes. Les Lumières, disait-il, comme sorties de la minorité imposée à soi-même. D'où cette injonction « Sapere aude » est le courage de te servir de ton propre entendement. En réponse à la question, donc, par Kant. Les trois traits qui caractérisent les Lumières, donc, à savoir l'usage de la raison, l'exigence du doute et la reconnaissance des droits, définissent en quelque sorte le périmètre de ce qu'est l'être humain des Lumières. Mais de quel être humain s'agit-il? Le mot « homme » qui le désigne systématiquement en français et par fidélité au texte, c'est celui que j'ai moi-même utilisé le plus souvent, est significatif. Encore faudrait-il ajouter un qualificatif, « blanc ». Car en dépit de la supposée neutralité du mot, c'est bien ce qui est implicite. Et malgré l'universalisme que semble impliquer l'émergence à cette époque de la catégorie d'humanité au sens de genre humain, elle entre en 1835 dans la sixième édition du dictionnaire de l'Académie française, en sont exclus de fait les hommes de couleur et les femmes. La révolution états-unienne s'accommode de l'esclavage, qui apparaît même en trois endroits dans la Constitution de 1787 et ne sera abolie qu'en 1865 par le 13e amendement qui maintient cependant l'état de servitude comme mesure punitive. La Révolution française limite le droit de vote au sexe masculin avec acquittement d'un cens dans la Constitution de 1791 et les femmes n'obtiendront en France le droit de vote qu'en 1944. Ni le Bill of Rights de 1791 aux États-Unis, ni la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 en France, deux pays réputés pour avoir mis en application l'humanisme des Lumières, n'auront ainsi respecté ce principe d'égalité. Dans Les mots et les choses, Michel Foucault, qui consacre de nombreuses pages à l'émergence des savoirs sur l'homme, lui aussi conservant le masculin, lui aussi se limitant au monde occidental, ne parle jamais des Lumières, ne s'attache pas à leur philosophie et à leurs contradictions, mais dans un structuralisme à la fois rigoureux et poétique, analyse ce qu'il appelle les configurations propres à chaque positivité, l'altération des êtres empiriques qui peuplent les positivités, le déplacement des positivités les unes par rapport aux autres, l'espace général du savoir. Moins encore que l'humanisme de la Renaissance, l'humanisme des Lumières l'intéressait, c'est bien plus tard qu'il lui accordera toute son importance. Un troisième humanisme peut enfin être différencié, dont les contours sont cependant moins faciles à définir, d'une part, faute de limites chronologiques, comme c'était le cas pour les deux précédents, et d'autre part, faute d'unité théorique, comme il était également possible de l'établir relativement au moins pour ces derniers. Pour le qualifier, je parlerai, non sans quelque hésitation, d'humanisme de la philanthropie, parce qu'il faut bien donner un nom. Il ne faut pas entendre cette expression au sens commun d'exercice de la bienfaisance, mais en référence à l'étymologie qui suggère l'amour de l'humanité, ou pour paraphraser Michel Foucault, un souci des autres, c'est-à-dire une préoccupation pour le sort des êtres humains, quel qu'en soit le fondement éthique, idéologique ou théorique. Certes, l'humanité n'était pas absente des autres humanismes, celui de la Renaissance s'intéressant à son développement intellectuel par les classiques, et celui des Lumières, à son émancipation par la raison et le doute, mais elle restait en quelque sorte en arrière-plan d'une pédagogie dans le premier cas et d'une philosophie dans le second. A l'inverse, l'humanisme de la philanthropie place explicitement l'homme dans son acception générique au cœur de sa pensée et développe à son égard une posture explicitement morale et au moins implicitement politique. Il implique des valeurs et des sentiments, c'est la dimension morale, et une volonté d'agir, et c'est la dimension politique. Ces valeurs et ces sentiments se manifestent en particulier par une sollicitude à l'égard des pauvres et des malheureux, ou dans un autre domaine, un autre langage, des dominés et des exploités. Cette volonté d'agir se traduit par un appel à transformer l'ordre social, que ce soit symboliquement, en particulier dans la religion, ou effectivement, y compris par la Révolution. Le christianisme occupe certainement dans le monde occidental une place fondatrice de cet ethos humaniste. On peut notamment penser au sermon sur la montagne, avec les béatitudes de l'évangile de Matthieu. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » L'ancienne se poursuit jusqu'à cette ultime formule « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous, toutes sortes de mal à cause de moi, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Il y a là à la fois une psalmodie victimaire qui énumère les damnés de la terre et pour chacun d'eux la promesse d'une réparation dans l'au-delà. On comprend que l'on puisse interpréter la religion comme une invitation faite aux affligés à accepter leurs conditions. Il ne s'agit cependant pas d'une passivité générale, comme le montre une autre parabole, celle du bon samaritain qui prend soin du blessé rencontré sur le bord du chemin. La compassion implique la charité que pratiquent nombre de congrégations. Mais le christianisme n'a pas l'apanage de la générosité religieuse, et l'on peut bien sûr en particulier rappeler que la zakat, aumône légale, est l'un des cinq piliers de l'islam. L'humanisme de la philanthropie va toutefois bien au-delà du seul domaine de la religion. Il existe même une tradition anti-religieuse de l'humanisme, dont une figure éminente est Thomas Paine, l'intellectuel et activiste anglais qui joue un rôle important dans la Révolution états-unienne, puis lors de la Révolution française. Il se disait théophilanthrope et substituait au christianisme ce qu'il appelait la religion de l'humanité. Il affirmait ainsi qu'il croyait en un être divin, mais rejetait les religions du livre, écrivant en 1794 dans son pamphlet Age of Reason, l'âge de la raison, que la Bible était, je le cite, une histoire de méchanceté qui a servi à corrompre et brutaliser l'humanité. Bien qu'il ne faille pas en déduire une filiation intellectuelle, on ne peut qu'être frappé par un certain air de famille, pour parler comme Ludwig Wittgenstein, qui peut être aussi un air du temps. Dans le texte du jeune Marx, un demi-siècle plus tard, contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Je le cite, « La critique de la religion est la condition première de toute critique. » Et plus loin, « Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Or, pour l'homme, la racine, c'est l'homme lui-même. » De manière plus explicite encore, dans les manuscrits de 1844, il a cette formule, « De même que l'athéisme, suppression de Dieu et le devenir de l'humanisme théorique, le communisme, abolition de la propriété privée et la revendication de la vie réelle de l'homme comme sa propriété, le devenir de l'humanisme pratique. » Ce qui conduit la philosophe Stéphanie Rosa à dire que le marxisme est un humanisme. Elle montre en effet comment certains des héritiers de Marx au XXe siècle revendiquent un humanisme socialiste, et dans le cas de la France, aussi bien parmi les scientifiques et les intellectuels, que dans les rangs du Parti communiste. Elle s'attache en particulier à deux figures majeures, Georg Lukács et Jean-Paul Sartre, qui après la Seconde Guerre mondiale se lance dans une controverse sur les relations entre existentialisme et marxisme. Et de son côté, Roger Garaudy, qui est l'intellectuel officiel du Parti communiste français, essaie d'établir un lien entre marxisme et christianisme. Et c'est précisément à l'humanisme de ceux qu'il appelle les marxistes mous que Michel Foucault s'en prend dans ses entretiens après la sortie de « Les mots et les choses ». Je le cite, « Notre tâche est de nous affranchir définitivement de l'humanisme. » Et il en appelle à la fin de toutes ces entreprises bavardes, à la fois théoriques et pratiques, pour réconcilier, par exemple, Marx et Teilhard de Chardin, entreprises noyées d'humanisme qui ont frappé de stérilité depuis des années le travail intellectuel. Entreprise qu'il gratifie de l'expression dépréciative de chardino-marxisme. Bien sûr, Jean-Paul Sartre est l'un de ces humanistes, mais il le ménage quelque peu. Seul Louis Althusser échappe entièrement à sa critique, mais il est vrai que ce dernier rejette précisément l'humanisme socialiste tel qu'il se développe dans l'Union soviétique post-stalinienne, et lui relit Marx en montrant qu'après 1945, après les manuscrits, il récuse l'idée d'essence de l'homme, considère l'humanisme comme une idéologie et professe clairement un, je cite, « anti-humanisme théorique ». C'est même pour lui la rupture fondamentale que produit alors la pensée de Marx. Ce faisant, il rejoint la nébuleuse réputée structuraliste dont les peintres Georges Ayot, Eduardo Arroyo, Francis Biras, Lucio Fanti et Fabio Retti se sont amusés en 1969 à faire un tableau collectif de 4 mètres sur 2, exposé alors au Centre Pompidou, et intitulé avec humour « La datcha », où Louis Althusser, hésitant à entrer dans la datcha triste miel de Claude Lévi-Strauss, où sont réunis Jacques Lacan, Michel Foucault et Roland Barthes, au moment où la radio annonce que les ouvriers et les étudiants ont décidé d'abandonner joyeusement leur passé. On y aperçoit le philosophe marxiste derrière la porte vitrée du salon, où conversent ses 4 collègues. Un même nom donc, humanisme, mais 3 formes très différentes et qui même ne renvoient pas au même signifié. L'humanisme de la Renaissance défend les humanités, l'humanisme des Lumières émancipe le genre humain, l'humanisme de la philanthropie oscille entre le sentiment chrétien d'humanité et la désaliénation marxiste de l'être humain. Leurs histoires sont différentes, même si les 2 premiers sont mieux délimités dans le temps que le 3e. La position de Michel Foucault varie par rapport à chacune d'elles. On pourrait dire, en simplifiant quelque peu, que premièrement, les mots et les choses s'inscrivent dans une épistémologie qui n'est pas étrangère à la pédagogie de l'humanisme, celui de la Renaissance, dans la mesure où l'auteur s'attache à l'épistémé, et en particulier à la place qui occupe la grammaire et la rhétorique, on l'a vu, à cette différence près que ce qui est pour lui un objet d'étude est pour les humanistes un projet d'enseignement. Deuxièmement, Michel Foucault délaisse presque entièrement l'humanisme des Lumières, s'intéressant à Rousseau uniquement du point de vue du langage et des langues, ne citant Voltaire que pour le petit livre de vulgarisation sur la philosophie de Newton, et ce n'est que 12 ans plus tard qu'il accordera toute son attention dans sa communication à la Société française de philosophie « Qu'est-ce que la critique ?», révélant alors les affinités avec l'émancipation prônée par la pensée kantienne. Et troisièmement, c'est contre l'humanisme de la philanthropie tel que j'ai proposé de le caractériser qu'il décoche ses flèches, mais il le fait en marge du livre dans des entretiens avec des journalistes et des intellectuels, s'en prenant aussi bien au marxisme et à l'existentialisme qu'aux spéculations de Teilhard de Chardin et à la littérature de Camus. Alors faut-il dire que Michel Foucault professait un anti-humanisme ? On le voit, la réponse n'est pas la même selon que l'on considère le propos développé dans « Les mots et les choses », dont la formule imagée de la mort de l'homme renvoie à une analyse généalogique, selon laquelle la centralité de l'être humain dans la production du savoir, typiquement les sciences dites humaines, est apparue au XVIIIe siècle et serait peut-être en voie de disparition, ce qui relève d'une sorte de prophétisme théorique, ou bien les propos enregistrés dans les entretiens qui attaquent l'idéologie des humanismes de son temps, ce qui procède d'une classique polémique intellectuelle. Dans le premier registre, il écrit « L'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. » Dans le second, il invective « À la fin des fins, cet humanisme a constitué d'une certaine manière la petite prostituée de toute la pensée, de toute la culture, de toute la morale, de toute la politique des 20 dernières années. La confusion qu'il entretient provient de leur assimilation, de ces deux registres. Alors déplions l'analyse au-delà de la pensée foucauldienne. Si l'on peut reconnaître trois modalités de l'humanisme, on devine aisément que les critiques dont elles font l'objet sont distinctes, et il en est de même pour leurs enjeux contemporains. L'humanisme de la Renaissance se prolonge aujourd'hui dans le système éducatif et notamment dans les universités par l'enseignement des humanités qu'on appelle aux États-Unis « liberal arts », les arts libéraux. Dans une conférence qu'il donnait à l'université de Columbia, où il les a enseignés durant toute sa vie académique, le critique culturel états-unien-palestinien Edward Said admettait l'importance de transmettre des connaissances sur les grands auteurs européens, d'Homère à Platon, d'Augustin à Dante, de Cervantes à Dostoïevski. Mais rappelait cependant qu'il existe d'autres traditions philosophiques et littéraires et donc d'autres humanités qui auraient elles aussi mérité l'attention. Une telle ouverture intellectuelle aurait, on peut l'ajouter du reste, des conséquences bien au-delà du seul savoir, car à l'inverse, son absence nourrit le racisme et la xénophobie, l'hostilité ou l'indifférence à l'égard de celles et ceux qui sont vus comme autres et différents, jusqu'à vouloir leur élimination ou s'en rendre complice. Au fond, il y a dans la méconnaissance de ces traditions comme un écho de l'intérêt exclusif des humanistes de la Renaissance pour les Grecs et les Latins et leur oubli de la dette qu'ils avaient pourtant à l'égard des penseurs arabes, entre autres pour avoir été des médiateurs, traducteurs et interprètes de ces auteurs de l'Antiquité. C'est d'ailleurs ce qu'efforce de corriger l'Oxford Handbook of Humanism, publié en 2019, qui consacre des chapitres à l'humanisme en Asie de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Amériques, et aussi fait notable en Europe, provincialisant ainsi l'Europe, comme l'avait fait deux décennies plus tôt l'historien indien Dipesh Chakraborty pour le capitalisme, et questionnant donc l'idée commune selon laquelle l'humanisme serait une affaire européenne. Cependant, désormais, l'enjeu s'est déplacé. Ce n'est plus seulement aujourd'hui l'ignorance des cultures non occidentales dans l'enseignement des humanités qui peut inquiéter, mais le recul général de cet enseignement qui se trouve disqualifié pour son exercice d'une pensée critique aux États-Unis, où 4000 livres sont bannis des écoles publiques et où nombre de départements d'études littéraires ferment dans les universités, et où cet enseignement est minoré au profit de matières supposées plus directement en lien avec le monde du travail en France. N'est-ce pas là aussi une situation qui était déjà dénoncée au début du XIXe siècle en Allemagne et avait donné naissance précisément au nom humanisme contre la réforme utilitariste de l'époque? Hier, on regrettait l'occidentalocentrisme de l'enseignement des humanités. Aujourd'hui, on déplore le début de sa disparition. L'humanisme des Lumières a connu un développement plus mouvementé encore, car il n'a plus simplement pour scène le savoir et son enseignement, mais le monde et ses désordres. L'héritage des Lumières, pour reprendre l'expression d'Antoine Lilti, est certainement, comme il l'écrit, marqué par les ambivalences de la modernité. Pour l'anthropologue états-unien Brent Crossan, je le cite, « Les théories des droits universels et de la souveraineté du peuple sont apparues au moment même où la traite transatlantique s'accélérait, et le siècle des Lumières, célébré comme l'avènement de la raison humaine, est aussi marqué par la naissance du continent noir dans l'imaginaire européen. L'esclavage et la colonisation sont ainsi indissociables de l'humanisme des Lumières, non seulement chronologiquement, que l'on pense à la révolution haïtienne ou à la conquête de l'Algérie, mais aussi en partie idéologiquement, avec l'émergence des théories raciales qui contredisent l'universalisme humaniste en établissant des hiérarchies au sein de l'humanité. Pensons que David Hume écrivait par exemple qu'il suspecte, je le cite, les Noirs et en général les autres espèces humaines d'être inférieures aux Blancs, et qu'il observait que, je le cite encore, sans même parler des colonies, il y a dispersés en Europe des esclaves noirs dont aucun n'a jamais montré le moindre signe d'ingéniosité, alors que parmi nous des gens modestes, sans éducation, s'illustrent et se distinguent dans chaque profession. Une lointaine résonance, certes atténuée et presque invisible, de cette différenciation au sein de l'humanité est le fait, qu'on méconnaît souvent, que la Convention de Genève relative aux réfugiés de 1951 ne concernait que les Européens et qu'il a fallu attendre 1967 pour que le protocole de New York étende le droit d'asile à l'ensemble de la planète. À côté des révolutions états-uniennes et françaises qu'il a inspirées à la fin du XVIIIe siècle, l'humanisme des Lumières a été à l'origine d'une transformation importante de l'ordre moral et juridique international en introduisant les droits humains. L'historienne états-unienne Lynn Hunt en a fait le récit héroïque de la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France 1789 à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies en 1948, soulignant, disait-elle, la similitude de l'article 1er des deux derniers documents qui, à 159 ans de distance, énonce, je cite, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ainsi que l'a montré l'historien et juriste états-unien Samuel Moyne, ces droits humains, bien qu'ayant été proclamés il y a près de deux siècles et demi, n'ont joué un rôle significatif dans les relations internationales que dans les années 1970, se substituant alors à des formes de revendications plus radicales comme l'internationalisme ou l'anticolonialisme et devenant un instrument important dans la lutte contre les totalitarismes et les dictatures. Les organisations non gouvernementales, pour les unes internationales, comme la Fédération internationale pour les droits humains ou Amnesty International, pour les autres nationales, comme la Ligue des droits de l'homme en France, l'American Civil Liberties Union, ACLU, aux États-Unis, B'Tselem en Israël, jouent un rôle essentiel en réalisant des enquêtes indépendantes et en dénonçant des violations des droits humains dans un langage qui a acquis une légitimité qu'ont perdu en partie les discours plus radicaux, qu'ils soient anti-impérialistes ou révolutionnaires. Mais nombre de gouvernements qui sont eux-mêmes responsables de ces violations, et souvent de plus des soutiens au pouvoir qui en sont accusés, s'efforcent soit d'empêcher l'application du droit en la matière, soit d'en détourner le sens. Ainsi, en entrant sur la scène mondiale, les droits humains sont souvent apparus moins comme des principes moraux et des normes juridiques servant à défendre de leur violation toutes les victimes, que comme un instrument au service des puissants. D'une part, il leur est loisible de choisir là où ils veulent mettre en œuvre les droits humains et là où ils veulent les ignorer, au détriment de leur universalisme supposé. Le politiste britannique Stephen Hopgood explique comment les États-Unis ont refusé de ratifier la création en 2002 du Tribunal pénal international, après avoir échoué dans leur tentative initiale d'en paralyser le fonctionnement en soumettant chacune de ces décisions à l'accord des États dont les citoyens étaient inculpés, et ce afin de protéger leurs soldats d'accusations de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. D'autre part, il est même possible par un renversement éthique de se servir des droits humains comme un argument pour justifier l'exercice de la violence. L'anthropologue italien Nicola Perugini et le politiste israélien Niv Gordon analysent ainsi comment Israël est parvenu à affirmer avec l'aide de juristes un droit de tuer les civils palestiniens, notamment en arguant de l'existence de boucliers humains utilisés par leurs ennemis et en qualifiant les nombreux morts de victimes collatérales. Invoqués par les pays occidentaux, donc, les droits humains sont ainsi discrédités non pour ce qu'ils sont, mais pour l'usage qui en est fait. L'humanisme de la philanthropie, enfin, n'a plus aujourd'hui sa ligne marxiste en raison non seulement de la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est et de la perte d'influence des partis communistes européens, mais aussi de la marginalisation dans l'espace public des intellectuels se réclamant de cette pensée. Exit donc l'humanisme marxiste que rejetait sur le terrain théorique Louis Althusser et que répudiait sur le mode polémique Michel Foucault. Quant à la ligne chrétienne de l'humanisme, elle demeure présente, en particulier à travers les déclarations des papes François et Léon XIV et les prises de position des évêques de France dénonçant, par exemple, les politiques européennes restrictives et répressives en matière d'immigration et en appelant au respect de la vie et de la dignité des exilés, mais sans guère d'effets concrets, il faut le reconnaître. La fin du XXe siècle a surtout donné lieu à la naissance d'un mouvement qu'on pourrait considérer comme une forme de sécularisation du geste philanthropique à travers la raison humanitaire, à savoir l'invocation des sentiments moraux dans la conduite des affaires du monde avec le double objectif de sauver des vies et d'alléger des souffrances. Ce mouvement est presque contemporain de celui des droits humains, dont je parlais précédemment, puisque Médecins sans frontières, qui en a été en quelque sorte l'étendard, a été créé en 1971. Certes, auparavant, il y avait eu, dès 1863, le Comité international de la Croix-Rouge, mais il s'agissait d'une institution quasiment unique. Ce n'est que dans les dernières années du XXe siècle que s'est développée une vaste mobilisation internationale impliquant un grand nombre d'organisations non gouvernementales, significativement désignées en anglais comme des « charities », signe du succès de ce nouveau langage plaçant la morale au cœur du politique. Des gouvernements se sont alors mis à utiliser la qualification d'humanitaire pour nommer et justifier des actions présentées comme altruistes, incluant des mesures d'assistance aux pauvres, aussi bien que des interventions militaires supposées protéger des vies humaines. De la Somalie au Timor oriental, du Kosovo à la Libye, les pays occidentaux, souvent dans le cadre de l'OTAN, s'appuyant parfois sur des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont envoyé des troupes officiellement pour venir au secours de populations en danger, mais il est vite apparu que ces opérations étaient avant tout décidées, en fonction d'intérêts géopolitiques, de bénéfices économiques et d'enjeux idéologiques. L'humanitaire étatique s'est ainsi révélé être un nouvel avatar de l'impérialisme contemporain. Ce que le politique états-unien David Kennedy appelle, je le cite, le côté obscur de la vertu. Raison humanitaire et raison d'État constituent assurément un attelage étonnant qui conduit ici à tuer des hommes, des femmes et des enfants pour, dit-on, sauver des vies humaines et là à donner des armes à ses alliés pour massacrer les populations civiles. Alors finalement, Michel Foucault était-il, comme on l'a dit souvent, un anti-humaniste ? Selon le philosophe Roger Paden, je le cite, « Une grande partie de l'œuvre de Foucault peut être lue comme une critique directe de l'humanisme. Mais ces critiques de l'humanisme, de fait, sa conception même de l'humanisme, a spectaculairement changé au cours de sa carrière. » Cette double affirmation, constance de la critique et variation dans son expression, doit être cependant relativisée sur deux plans. Premièrement, Michel Foucault utilise rarement en fait le mot « humanisme », en tout cas dans ses écrits. Même dans « Les mots et les choses », ouvrage considéré comme son attaque la plus décisive par beaucoup, il n'apparaît que trois fois et n'est jamais théorisé. S'agissant des cours au Collège de France, il n'y est pas mentionné dans les index pourtant très complets préparés par les éditeurs scientifiques. Quant aux dits et écrits, les occurrences y sont rares dans quelques entretiens, surtout les premières années, et l'on parle ici de 3000 pages. Et deuxièmement, plutôt que de variations de l'anti-humanisme supposé de Michel Foucault, il faudrait évoquer toutes ces variantes de l'humanisme dont on a vu les grands traits et les nombreuses inflexions. Comme je l'ai dit, ses positions à l'égard de chacune d'elles sont différentes. Alors, quelle est cette critique de l'humanisme dont on parle ? En première analyse, l'humanisme, je dirais, ne l'intéresse pas particulièrement. D'une part, l'objet de son archéologie, ce sont des configurations historiques de savoir, qu'il appelle épistémé, et la dernière en date se construit en partie autour d'une série d'interrogations sur l'être humain qui se déclinent en plusieurs sciences dites humaines. Or, d'après lui, se profile peut-être une disparition de cette figure au terme d'une recomposition, en l'occurrence celle du structuralisme, dont il se défend d'être un partisan, tout en faisant l'éloge de ses principaux représentants. Plus qu'une critique de l'humanisme, c'est donc une prédiction concernant les sciences humaines. Avec le recul du temps, on voit ou on peut croire que cette prédiction ne s'est pas réalisée. Bien au contraire, le structuralisme, lui, a vécu. Quant aux sciences humaines, elles survivent, résistant, tant bien que mal, aux pressions politiques et aux coupes budgétaires, aux assauts contre la liberté académique et la pensée critique. D'autre part, l'objet de son exaspération, ce sont les expressions d'une pensée se réclamant de l'humanisme, qu'il soit chrétien ou marxiste, relevant souvent de bons sentiments, désireux d'un monde meilleur, qu'il trouve intellectuellement discutable et politiquement hasardeux. Difficile rétrospectivement d'embrasser en réalité l'imagination du paléontologue mystique de la Compagnie de Jésus qu'est Pierre Teilhard de Chardin et de défendre le dogmatisme du philosophe officiel du Parti communiste qu'est Roger Garaudy. Tout cela ne signifie donc pas à faire de Michel Foucault un anti-humaniste. S'il faut vraiment lui chercher une relation à l'humanisme, on pourrait dire qu'il annonce le post-humanisme. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que suggèrent les dernières lignes de son livre avec cet effacement de l'homme, comme à la limite de la mer un visage de sable ? Au début du XXIe siècle, s'est développée une nébuleuse savante qu'on appelle le post-humanisme. Nébuleuse issue de l'anthropologie, de la philosophie, de la théorie politique, des recherches sur la science, des études littéraires et des courants féministes. Il regroupe des approches aussi diverses que le nouveau matérialisme, le réalisme spéculatif, le naturalisme immanent, le perspectivisme cosmologique, l'anthropologie ontologique et même le transhumanisme. Et j'en oublie. Peut-être, en écoutant cette liste, Michel Foucault se remémorerait-il la taxonomie des animaux dans l'encyclopédie chinoise de Borges et ferait-il entendre, je le cite, « le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée » et c'est ainsi que commencent, comme vous le savez, « Les mots et les choses ». Pourtant, son livre a été une source d'inspiration des autrices et des auteurs de ce mouvement qui est très divers, mais dont le fondement commun intéressant est premièrement le rejet de l'anthropocentrisme dans un geste qui est à la fois épistémologique, penser le monde sans placer en son centre l'être humain, souvent masculin, souvent blanc, et en même temps geste éthique, mettre en cause son arrogance destructrice des non-humains et même de la planète. Il y a dans la prophétie foucauldienne de la fin prochaine de l'homme quelque chose de cette double dimension. Mais la pensée de Michel Foucault ne se laisse pas si facilement enfermer dans des définitions univoques. Contesté ou célébré pour son anti-humanisme présumé, inspirateur, sans savoir, du post-humanisme, il semble renouer, dans ces dernières années, avec les trois formes d'humanisme que j'ai décrites. C'est avec l'Antiquité grecque et romaine, redécouverte à la Renaissance, qu'il explore une nouvelle veine autour du gouvernement de soi et des autres dans ses derniers cours. C'est dans la philosophie kantienne, emblématique des Lumières, qu'il nourrit sa réflexion sur la critique. Et il y a une forme de philanthropie chez un homme qui se mobilise pour les prisonniers français, les opposants polonais, les réfugiés vietnamiens, et qui, malade 3 mois avant sa mort, reçoit à son domicile des travailleurs maliens et sénégalais expulsés de leur domicile pour lesquels il rédige des lettres de soutien. Ce qui ne fait toutefois pas de lui un humaniste. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.